grosses.
Les quenouilles. Les quenouilles. Bienvenue sur Radio Panique 105.4 à Bruxelles et partout ailleurs sur Radio Panique avec un K.org. C'est parti pour une heure d'émission avec les quenouilles. Et notre mot du jour, c'est moteur.
www.radiopanique.com.
Pas du tout. Vous êtes sur Radio Panique. Et on vous a fait entendre une création de Jérémy Nureni, Banafunzi, sont donc sur Arte Radio, Vroom Pchitchak Poum. Une musique d'embouteillage faite exclusivement, enfermée à l'intérieur de l'habitacle d'une voiture. Et maintenant, c'est Holy Motors.
C'était Trouble de Holy Motors, un groupe estonien avec la chanteuse et compositrice Eliane Tulv.
Ah, chers auditeurs, les quenouilles tombent comme les gouttes de pluie sous le coup de qui une un rhume, qui une migraine, qui l'autre l'éternelle rengaine du trop vite, trop plein. Mais elles sont là, les quenouilles, avec leurs voix enrouées, leurs nez bouchés, leurs idées embrumées, mais toujours aussi déterminées, hein. Ce soir, quenouille Aliette, et moi-même, quenouille Valentine, et notre invitée, peut-être silencieuse, peut-être pas, Barbara, nous porterons ce soir nos voix, et celles des quenouilles cloîtrées. On n'allait pas, chers auditeuristes, vous abandonner. Non, pas un premier mercredi du mois. Surtout pas un premier mercredi du mois qui tombe effectivement le premier du mois. du mois de décembre, le mois de la loose, le mois de la fin. Autrement dit, c'est le début de la fin. C'est pas la barre des 100 000 qu'on est en train de passer, mais le coup de barre de 2021, cette année hors standard. C'est donc le moment, je propose, de l'entretien moteur. Alors à la base, on en devait être beaucoup à entretenir nos moteurs, mais on sera deux et demi peut-être, avec des
peut-être
réponses
trois, en fait.
télépostées sur le doc partagé de nos autres quenouilles qui nous suivent aussi sur WhatsApp. On pourrait faire comme à la télé, des fils en direct, et vous pourriez répondre les autres quenouilles à nos questions. Et la première question de cet entretien moteur, Aliette, je te la pose à toi du coup.
D'accord, Valentine.
C'est quoi votre moteur? C'est quoi qui vous motive?
Alors, la question c'est quoi mon moteur? C'était quoi mon moteur? Et ce sera quoi? Je ne sais pas. Parce que c'était quoi? Moi j'ai l'impression que de griffonner, ça a été mon moteur pendant longtemps. Mais maintenant c'est le café en fait. Plus de griffonnage, c'est fini ça. Voilà.
Mais le moteur, le café c'est plus le carburant, non?
Non, bah, je ne sais
moteur,
pas. Ouais.
C'est le moteur, carrément le moteur.
Je sais pas. Ou alors il n'y a plus de moteur en fait, il n'y a plus que du carburant.
Ok, ça va. On a la réponse de Quenouille Milady, qui à la question « qu'est-ce qui nous motive ?» nous répond qu'elle ne connaît pas la motivation, ni l'espoir, ni le bonheur. Ce sont des concepts incomplets et terriblement injonctifs, nous dit-elle, qui rendent la dichotomie avec le réel plutôt violente. Tout autant, je connais la sensation de dépassement, de victoire, surtout dans les luttes et les alliances qui braconnent nos corps pour des causes de justice sociale. La colère est un moteur gigantesque et heureux chez moi. Merci, Quenouille Milady. Et moi, je dirais, j'ai longtemps pensé, dit que c'était la tristesse. Que la tristesse joyeuse, c'était celle qui me faisait avancer. Et puis après, je réfléchissais l'autre jour et je me disais que souvent, c'est peut-être l'amour. Ou l'amitié, parce que je vois pas forcément trop la différence.
Mais il y a plein de sortes d'amour.
Il y a plein de sortes d'amour.
Eros, Agapé et tous les autres, en fait, dont j'ai pas les noms grecs, mais
grec.
Qui existent, en fait.
Voilà, peut-être que c'est ça. À voir, peut-être. Pourquoi? Deuxième question de l'entretien moteur. À moins qu'on ait ici un...
Peut-être une petite réponse. Ah non, pour le moment, non. C'est
toujours
pas encore
pas.
Vraiment... C'est encore un petit peu grippé.
Qu'est-ce qui vous fait démarrer au quart de tour? Quenouille Aliette?
Le réveil. Moi, le réveil sonne, je me lève. Il n'y a pas de temps mort. Sinon, je ne me lève pas.
Ah
ouais. Donc, ouais. Après, voilà. Sinon, moi, à part ça, je ne suis pas quelqu'un qui...
Un truc qui t'énerve.
Qui m'énerve, mais tout m'énerve, en fait. Surtout aujourd'hui, tout m'énerve.
Aujourd'hui, il faut savoir que c'est
même
vraiment...
la date m'énerve. Le 1er décembre m'énerve. Voilà. Donc, ça, c'est dit.
Pourquoi le 1er décembre t'énerve?
Je ne le dirai pas à l'antenne.
Ok.
C'est un anniversaire que je ne veux pas célébrer.
Ok. Les anniversaires, c'est souvent très agaçant. Parce que c'est les injonctions. Peut-être ça peut être ça, les trucs qui font démarrer au quart de tour. Quand on veut t'obliger à être contente quand ça ne donne pas lieu.
Ouais. Ouais, non, mais franchement, par contre, je suis contente d'être là, moi, ça va. Là-dessus, on a une petite bulle d'une heure.
Ok. Alors, Milady nous dit qu'elle n'a aucune diplomatie, que tout l'a fait monter dans les tours. En vieillissant, je garde la salive entre les dents, mais je souffre de bruxisme. C'est un mot que j'ai jamais su prononcer, ça. Quand on grince des dents. Et alors, en studio, vous êtes plutôt traction avant, traction arrière ou double traction en mode 4x4? Moi, je suis traction avant. Malheureusement.
Moi, je pense que je suis traction arrière.
Tu veux dire que tu te laisses tirer?
Ouais, ça dépend, tu vois, mais le côté un peu... Les tractions avant, c'était les anciennes voitures ou les
nouvelles? Mais je crois que c'est encore les nouvelles. Alors, ma voiture, dont je suis très contente de parler, puisque je l'aime passionnément, j'ai appris pas plus tard qu'hier, en changeant les pneus, qu'elle avait la traction avant. Je dirais pas la marque, mais elle s'appelle Bumba.
Moi, j'aime bien l'idée, tu vois, que... Ça pousse de l'arrière et à un moment il se passe quelque chose. Mais je dis pas que j'ai besoin d'être poussé. C'est plus une image. Comment
non,
est-ce
c'est
que,
l'entraînement.
Comment est-ce qu'on se mobilise, tu
ouais,
vois.
C'est ça.
Ouais. Et sinon, quand j'ai eu 44 ans, j'avais dit que c'était l'année 4x4, donc tout était possible. Mais ça fait longtemps, donc ça compte plus.
C'est ambigu le 4x4, parce qu'en même temps c'est génial. C'est, tu mets le full moteur, tu vas à fond, tu peux tout affronter, mais c'est quand même fatigant et super polluant.
C'est surtout ça, quoi. C'est pas si classe. Ça dépend où t'habites, quoi. Mais avoir un 4x4 là où j'habite, ça n'a aucun sens. Franchement, alors là...
Ok, Milady nous dit qu'elle a un super pouvoir, et ça, on le savait déjà, celui de mobiliser, de corporatiser, de cercler en affinité, de rassembler des gens, surtout des meufs, autour de sujets pleins. Un peu comme les quenouilles, quoi. Ou de sujets creux, parfois, comme celui des moteurs. Sûrement une auto-incapacitation à la grande gueule rassembleuse. Quenouille Anissa m'appelle, appelle Quenouille. Milady, ça commence à devenir compliqué de porter toutes ces voix. Maïzena Queen. Mais même cette gouaille maternalisante peut aussi me rendre clanique et mordante. J'aime rassembler, mais avec exigence et parfois sans nuance.
Elle écrit bien quand même, Quenouille Milady. Hein.
Ben ouais.
C'est dur de parler après elle. Barbara, t'as raison. Du silence, encore du silence.
Qu'est-ce qui vide vos batteries ?
Qu'est-ce qui est l'agenda ? En fait, c'est à la fois super d'avoir un agenda, mais rien que de... Je le lis jamais, parce que si tu lis ton agenda, c'est foutu, quoi, je crois. Je sais pas, toi, ce que tu fais.
Juste de le regarder, ça te vide les batteries.
Ouais, en fait, je mets des reminders, là. Comment on dit en français ?
Des rappels.
Des rappels, voilà. Je mets des rappels, et si les rappels fonctionnent, l'agenda fonctionne.
Ok, je vois le genre. On est très rythmé par l'agenda. Bah, tu n'aurais pas une voiture temporelle.
Tu mets du tac au tac, qu'est-ce qui met de l'eau dans le gaz ?
Qu'est-ce qui te met de l'eau dans le gaz ?
Mais ce cas, c'est qu'à part ça, moi, je suis plutôt... je vis au jour le jour, et tout va, quoi, tu vois. Tout va, à un moment, tu es là, et tu dis... Même, par exemple, il a été question d'annuler cette émission. Moi, je me disais, pourquoi annuler cette émission alors que rien n'est possible pour la faire ? Ne l'annulons pas.
Ouais,
allons-y,
c'est ça.
Tu vois.
Contre tout, contre vents et marées. Et alors, tu serais plutôt diesel, turbo ou paix dans l'eau ?
Oh bah, paix dans l'eau, attends, parce que quand même, diesel, turbo, je sais pas, c'est pas...
Ah,
non, ça
si,
me parle.
Si,
en fait, moi, tout ce qui est ces trucs motorisés, enfin, les voitures, tout ça, c'est pas forcément un concept... j'ai l'impression
on
que c'est dépassé.
On parle de moteur, hein, le moteur, ça peut être un moteur de machine à laver.
Diesel ? Ma machine à laver.
Un tracteur. Il y a des trucs qui marchent au diesel, des moteurs de bateau.
Ah.
Mais c'est polluant.
Mais c'est super polluant. Voilà, le moteur, c'est quand même gênant parce qu'on se dit, on a toujours pas vraiment avancé par rapport à cette question du moteur polluant. Il y a des moteurs qui fonctionnent à la pomme de terre ou je sais pas quoi. T'avais vu ça ? Ils ont inventé des.
Ouais, mais ça pose des problèmes
des
écologiques parce qu'après,
vert,
on fait des carburants au lieu de faire à manger.
Ouais, non, ça ne va pas.
Non.
Il faut juste arrêter les voitures, c'est ça
ah
le problème.
Ah non, pas ça. Et alors, dernière question de l'entretien moteur, auditeurice, pour ou contre le liquide de refroidissement ?
Oh,
c'est métaphysique comme question que je vous ai inventée là.
Mais toi, tu as une réponse à cette magnifique question parce que pour le moment, personne n'a répondu.
Moi, j'aurais tendance à dire contre.
Parce ouais, moi aussi, j'allais dire contre.
C'est pas grave, on surchauffe, mais on y va, quoi.
On peut faire cette émission ensemble, Valentine.
Ouais.
On est contre le liquide de refroidissement.
C'est ça, on se surchauffe, on se motive, on se donne de l'énergie. Et c'est pas grave si on s'énerve, et c'est pas grave si on panique, et c'est pas grave si ça va trop loin, quoi.
C'est ça.
Ouais, l'important, c'est qu'on puisse s'échapper. Et c'est pour ça que je voulais proposer de finir cet entretien moteur par une chanson qui, moi, me pousse depuis très très longtemps. C'est une chanson brésilienne, pour changer, on s'en serait douté. Et c'est une chanson qui s'appelle Claustrophobie et qui me pousse et que j'écoutais souvent comme ça et que du coup je rêvais de m'échapper et de m'envoler et je le faisais avec cette musique et donc c'était pas polluant parce que c'était juste de la musique. Alors je vous propose d'écouter Claustrophobia de Martin Davila.
Ah, meu samba, se tu és nosso, é nosso samba. Se é nosso samba, o samba é nosso. Pra que prisões dentro de ti? Sai, meu samba, pois sei que tens claustrofobia. É tua noite, a noite, o dia. vá se espalhar pelo país. Vai, meu samba, sem fatiga, estafa ou estresse. Não precisas de reza, quermesse, passaporte, padre ou juiz. Já se abriu a janela do mundo e agora não podes parar. Tu tens que conquistar, tu tens que encantar e te fazer cantar com teu lará, com teu lará, com teu lará, com teu lará. De reza, quermesse, passaporte, padre ou juiz. Já se abriu a janela do mundo e agora não podes parar. Tu tens que conquistar, tu tens que encantar e te fazer cantar com teu larará.
Des temps modernes en passant par l'aile ou la cuisse ou aussi le grand métropolis, l'engrenage capitaliste a maintes fois été dénoncé du dedans ou du pas loin. L'usine de rien est un geste esthétique du désespoir, un espace vidé de son sens. Restent alors les corps humains qui résistent au temps du néant, un principe actif de ne plus savoir quoi faire. Ce film est le siège d'une forteresse. Les gueux jouent au foot et chantent dedans la geôle. C'est un film des apprentissages, dont le mot contient tissage. Socialement impur, puisqu'aucune victoire n'est visible, les crises et les rires et les douleurs et les pleurs remplacent le bruit des moteurs des machines, lesquelles s'affairent ailleurs, dans le fameux monde des affaires. Bien sûr, cette occupation d'usine ne met pas le doigt dans l'engrenage globalisé et globalisant, mais il parle des forces motrices qui agitent les opprimés. C'est un film de Pedro Pino qui allonge l'espace et le temps et le regard sur le monde si fragile des usines en Europe du Nord. Tiens, d'ailleurs, avez-vous déjà visité une usine encore en activité ?
We'll be right back. shut up and drive, 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 drive. Shut up. Shut up and drive. Shut up and drive.
Alors, c'était notre moment mécanique grippé et je voudrais préciser que vous avez entendu Milady Renoir parler d'un film de Pedro Pino qui s'appelle L'usine de rien, qui franchement, moi j'ai envie de le voir maintenant, voilà, oui. Quand, je ne sais pas. Et tout de suite après, eh ben, Rihanna, Shut Up and Drive, c'était comme ça que ça s'est passé.
C'est comme ça, on était là, on était lancés sur notre route, notre feuille de route. Et on s'est complètement laissé aller.
Et on continue là, en fait.
On continue, hein.
On s'arrête plus.
Non. Avec la proposition de Quenouille Stéphanie.
Ouais.
Quenouille Stéphanie qui nous a envoyé le résultat d'un entretien qu'elle a mené ce midi même avec la slameuse Zouz, alias Zoé N, ou N, je sais pas comment on dit. Moteur et motrice pour les femmes qui s'engagent dans de nombreux combats quotidiens. Zouz et sa sœur Théa ont remporté le prix du public samedi soir lors de la finale Slam Paroles Urbaines. Et donc elle nous parle un peu de son parcours. Merci Stéphanie pour cet entretien. On vous écoute.
Comme tous les premiers mercredis du mois, on explore un mot dans l'émission des Quenouilles. Et aujourd'hui, il s'agit du mot moteur-motrice. Ici, on est au collège Frangelico à Evere avec Zouz. Qui vient de terminer un atelier, le premier d'une série de plusieurs séances dans le cadre d'un projet d'écriture de texte. Alors, salut Zouz, tu es slameuse bruxelloise, membre du collectif Slam Que et aussi de El Slam. Et ici, tu es dans une école, tu donnes un atelier. Quelles sont les émotions que tu vis lors de ce type d'animation et aussi quels sont tes objectifs quand tu acceptes ce genre de demande?
Ben, en fait, le slam, c'est pas un art qu'on fait tout seul dans sa chambre ou qu'on fait de manière individuelle. Le slam, c'est un art qui est très collectif, en fait. Déjà, par les soirées slam, par les open mic, voilà, on écrit du slam parce qu'on a vu des gens slammer, parce qu'on est inspiré par voir les gens slammer. Et ensuite, c'est pas un art que tu gardes de manière radine pour toi. Ensuite, cet art, tous les slameurs et toutes les slameuses vont en général donner des ateliers, parce que le slam, c'est un art qui se transmet. Voilà. Et en donnant un atelier, en écoutant ce que les jeunes font en atelier, c'est là aussi que t'apprends. Voilà.
Ok. En fait, je voulais un peu savoir comment a démarré ton aventure dans le monde du slam.
Alors, je suis comédienne à la base. J'ai fait le conservatoire de Bruxelles. Et un jour, j'ai fait un stage de slam au sein du collectif Slam Que, qui est un collectif de slam à Bruxelles. Et là, ça a été le coup de foudre. J'ai écrit mes premiers slams. J'ai continué à aller en open mic et là, tout à coup, il y a Joy Slam, une slameuse plutôt connue, qui m'a repéré et qui m'a dit, voilà, je fais un projet qui s'appelle Parole de Femme, où j'encadre plusieurs femmes à partir d'un slam. On enregistre le slam, on réalise un clip. Et elle avait flashé sur un de mes slams qui s'appelle La Justice sans Balance. Et à partir de là, j'ai participé à son projet. Et puis j'ai fait plein d'open mic. Et je suis rentrée dans le collectif Slameke. Et puis j'ai rencontré Lisette Lambé. Et en fait, c'est un milieu où les femmes se poussent beaucoup vers le haut. Et voilà, je suis rentrée dans ce milieu comme ça.
Oui, je me souviens bien t'avoir vu à la Foire du Livre lors de la soirée, finalement, de scène collective, de présentation de vos textes. C'était vraiment, vraiment top. Bah, il se fait que samedi, je t'ai vu aussi sur scène lors de la finale du prix Parole Urbaine. Théa et toi, vous avez slamé deux textes. Le premier, Cher harceleur, merci, que j'avais déjà eu la chance de vivre en demi-finale. Et le second, Alors j'ai fermé ma gueule, un texte dont la thématique est liée à la violence faite aux femmes. Et la chute est par ailleurs très forte parce que vous impliquez à fond là-dedans. Et ces deux textes sont marqués techniquement, vocalement, au niveau de l'interprétation. Ils sont très, très travaillés. Et comment naissent ces textes? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous y mettez pour qu'ils soient si percutants?
Déjà, je vais peut-être expliquer un peu le début du duo et comment on s'est rencontrés. Donc, notre duo, il s'appelle ZNT, donc assemblage de Zouz et de Théa. Hein. Théa, elle vient du milieu... en fait, elle est prof de français. Moi, je suis comédienne. Hein. Donc, elle faisait du slam depuis plus longtemps que moi. On s'était pas encore rencontrés. Et paf, il y a genre 2 ans, on se rencontre dans le métro lors d'un slam sauvage. Et là, on s'est checké, on s'est fait... Oh, OK. Et depuis ce moment-là, on se colle, on est tout le temps ensemble. Donc, on est devenus très amis. Tout le monde nous confond, on nous prend pour des sœurs. Et voilà, on avait énormément de choses en commun. Et on a décidé d'écrire... Cher harceleur, suite à une situation d'harcèlement qu'on vivait. Et on s'est posé plusieurs questions de comment on allait répondre à cet harcèlement. On avait été voir les flics, il n'y avait rien qui avait fonctionné, ça n'avait pas abouti. On avait pensé à la violence et tout, on était vraiment très très en colère. Et puis tout à coup, Théa est venue chez moi, elle m'a dit « Meuf, on va faire un clip ». Et donc ça a super bien marché. Là, on a écrit « Cher harceleur, merci ». On a sorti le clip, c'était en confinement d'ailleurs. Et après, là, ça a démarré. Il y a plein d'associations féministes qui nous ont contactées. À chaque fois qu'on le fait dans des milieux cuir et féministes, ce texte, il pète de fou. Les gens deviennent malades. Ça marche trop bien. Et du coup, voilà, comment on écrit en duo. On réfléchit à des thèmes qui nous sont communs. On réfléchit à des thèmes qu'on a envie de, dont on a envie de parler. Et ensuite, on écrit ensemble. Et ensuite, on répète ensemble. Et le deuxième texte, c'était un nouveau texte. On avait envie, cette fois-ci, d'écrire un texte plus sensible. Voilà, parce qu'on se rendait compte que quand on était à deux sur scène, on avait un côté assez badass, assez agressif et tout. Et on se dit, mais en fait, on est des personnes très sensibles aussi. Et comme on est des meufs à qui... Enfin, voilà, on a subi des trucs dans nos vies. Mais on voulait se poser un peu la question qu'on ose rarement se poser de... Tiens, comment je me suis retrouvée dans cette situation? Et est-ce qu'un jour, en fait, j'arriverai à dire non, en fait? Est-ce que c'est pas un schéma, voilà, qui est incrusté en nous, en tant que femmes? Et à quel moment on osera dire non dans nos vies? À quel moment ça ne se reproduira plus? Parce que c'est bien de faire des slams sur scène engagés et tout, mais dans nos vies intimes, qu'est-ce qui se passe? Voilà.
Top. Et en fait, je vais te demander si les auditeurs ont envie de... auditrices, pardon, ont envie de... d'entendre les textes, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, enfin, sur quelle page ou quel Insta
Il y a ma page Zouz Slam et il y a la page du duo qui est ZNT, donc ça s'écrit Z.
Esperluette.
Ouais, c'est ça, été. Okay. Et alors on a une scène le 14 décembre au Jacques Franck.
Ok, super. Le rendez-vous est pris, donc du coup. Et donc samedi soir en finale vous avez remporté le prix du public, Théa et toi, et en effet j'ai vu ce public derrière vous. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes des moteurs, des forces motrices pour tout un tas de meufs de votre génération, mais au-delà de ça aussi une fierté pour d'autres meufs plus âgées?
Je sais pas si on a conscience de ça, mais en tout cas dans nos vies intimes on est déjà énormément dans la sororité, en fait. on est, enfin voilà, on a des codes, on va jamais se mettre en compétition avec une autre meuf et tout. C'est un peu nos mantras, quoi. C'est un peu aussi les mantras de El Slam, d'ailleurs. C'est aussi Lisette Lombé, voilà, Joy, c'est des slameuses qui nous ont beaucoup inspirées pour ça. Voilà, on se tire vers le haut, ta lumière ne me fait pas ombrage, ça c'est un des mantras de El Slam. Toute seule, ça n'a pas de sens, c'est aussi un autre mantra. Et voilà, si ça produit ça chez les autres femmes, c'est génial. Mais voilà, nous on est là, enfin de toute façon dans le slam, on est là pour partir à partir de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on subit nous-mêmes? Et après, on essaye d'aller vers l'universel, et si ça touche les autres, c'est parfait.
Et tu viens de faire paraître chez Maelstrom un bootleg, Sale Meuf. On pourrait comprendre ce titre de plusieurs manières. Y a-t-il plusieurs significations, ou est-ce que tu en as une que tu souhaites mettre plus en évidence?
Oui, mais si vous voulez, je vous lis le quatrième de couverture.
Avec plaisir.
Il explique très bien. Sale Meuf, c'est ce que tu gueules quand le nom d'une de tes sœurs est cité par un MC. C'est ce que tu scandes pour l'encourager, pour la féliciter à la fin de son slam. Sale Meuf, c'est ce que ma sœur m'a crié à une scène, alors qu'on était entouré de gens guindés qui s'attendaient à écouter de la poésie bien chic. Mais nous, on n'est ni chic ni douce. On fait du bruit, beaucoup de bruit. On est vulgaire, on aime le trash, les rimes et la bière. On slame dans les théâtres, dans les bibliothèques, dans des parcs, dans des bars, dans la rue, dans les métros, dans des squats. Sale Meuf, c'est tout un univers de slameuses bruxelloises féministes. Sale Meuf, c'est un cri de guerre, de désespoir, d'amour et de force. Un cri d'humanité, un cri de sororité.
Voilà. Super. Bah écoute, vraiment, ouais, je suis ravie que tu aies pu déjà donner cet atelier, mais aussi répondre à toutes ces questions. Et voilà, je suis enchantée d'avoir fait ta connaissance.
Moi aussi.
Et bah écoute, voilà, je te souhaite de passer à
tous les je voulais juste rajouter que ma sœur, du coup, Théa, va sortir son propre bootleg.
Tout à fait.
En décembre, qui s'appelle Chagrin des codes. Voilà, et en fait, comme elle est prof de français, un des thèmes qui revient très fort dans son écriture, et elle a une magnifique écriture, du coup, elle a des techniques incroyable. Et un thème qui revient souvent, c'est le thème de la jeunesse, le système scolaire, etc.
Ah, donc voilà. Je pense que je vais me le procurer. Écoute, merci beaucoup en tout cas.
Bah, trop bien, merci Stéphanie, merci Zouz. C'est chouette d'entendre tout ça dans les quenouilles ce soir pour faire moteur avec nous. Et maintenant, elle est là, elle est partout ce soir, elle est avec nous. Une suggestion musicale de Quenouille Milady.
Ce morceau, c'est un morceau qui mène aux routes sans fin. C'est un des morceaux de la bande originale du film Blade Runner, où la question des cyborgs, des humains à moteur, est mise en image. La musique est composée par Vangelis, un des précurseurs de la musique électronique perchée des années 60 et 70, une sorte de Brian Eno grec. Et là, on entendra la voix cristalline et métallique de Demis Roussos, bien avant les chansons d'amour à poil dru en français. C'est un morceau que j'écoute quasi systématiquement quand je conduis seul, quand je suis dans la voiture, dans l'habitacle, dans un rapport presque enfermé et dans un rapport aux choses qui avancent mécaniquement. Ce morceau me rend autre. Plusieurs fois, elle m'a permis des rencontres improbables. Une fois, une chouette effraie sur le milieu de la route de campagne. Chouette qui n'a d'ailleurs pas bougé, peut-être effrayée bien sûr, jusqu'à ce que je descende de la voiture et que je m'approche à 20 cm. Et là, elle s'est mise à s'envoler. La chouette effraie, c'est cette chouette blanche, au visage un peu plat. D'autres animaux aussi, et des drôles d'humains. Comme une fois, cette femme témoin de Jéhovah, rencontrée au fin fond de la Normandie, sous une drache épaisse, qui cherchait à rejoindre un centre de revalidation, là, sous la pluie, au milieu de nulle part, entre les marais et les vieilles forêts. Et qui m'a tenu un discours apocalyptique qui collait tellement bien à la chanson que finalement j'ai arrêté, me disant que c'était déjà assez suffisamment d'apocalypse comme ça. Voilà, c'est un morceau de musique qui traverse deux mondes. C'est presque une invitation au passage.
Oh,
Marina Tsvetaeva a dit « L'avenir est peu accommodant. Où est-il le moteur qui mène au passé ?» Voici donc comment j'ai passé mon permis de conduire. Je l'ai passé un peu tard, hein, selon les us de ma famille, parce que ma mère, elle a commencé à conduire à 13 ans, mes frères à 16. J'avais déjà une vingtaine d'années, moi, quand je m'y suis mise. Je m'étais enfuie d'Alsace avec un type que j'appellerai ici « le néfaste de merde ». Mais à l'époque, c'était un peu comme un fardeau que tu portes, un moteur qui t'emmène jamais où tu veux, mais que veux-tu ? T'as signé un contrat où tu t'es fait arnaquer et donc t'attends le moment où la rupture sera possible. Le néfaste de merde avait son permis, lui. J'ai souvent rencontré des hommes, moi, qui avaient leur permis et qui donc empêchaient les femmes de conduire. Je m'en fichais parce que je préférais le train. Le néfaste de merde conduisait, et je crois que si on s'était pas enfui dans un village de Provence, lui, avec les sous que ses parents lui donnaient gentiment chaque mois, et moi, avec le magot des ménages que j'avais fait aux quatre coins de Strasbourg. Eh bien, si on s'était pas enfui, il aurait saboté mon projet de permis. Le moteur, c'est celui qui décide pour les autres. Le moteur, c'est celui qui fonce, et tant pis pour les fausses routes ou les déceptions. T'es embarqué, et c'est pas toi qui conduis. Donc on était à Aiguille, ce village que j'aimais beaucoup. Là, les virements mensuels de papa-maman lui arrivaient et il pouvait acheter du rosé, de la pizza, du chèvre au marché. Mes économies, elles, auraient une fin. J'ai cherché du travail et j'en ai trouvé. Une société de nettoyage qui s'appelait Honnête, je crois, embauchée. J'ai tout de suite adoré le patron qui parlait 10 fois plus lentement que moi et était le roi pour me proposer les chantiers les plus aléatoires. Une résidence qui venait de se construire où je devais nettoyer 10 cages d'escalier avec des portes qui grinçaient et du vent, tellement de vent que c'était clair que l'endroit était invivable. Mais un entrepreneur avait tout misé pour construire. Un immeuble au cœur d'Aix, une sorte de squat, il n'y avait pas d'électricité dans la cage d'escalier, pas vraiment de matériel pour nettoyer. Contraste des offres et flegme du patron. J'ai commencé à travailler et ça défilait le paysage à travers les vitres de la voiture pour découvrir les clients. Il fallait trouver une solution, le patron avait dit « tu dois être autonome pour les déplacements ». Mais le néfaste de merde, il était radin, alors même s'il ne voulait pas vraiment que je conduise, c'était pire d'envisager de payer quoi que ce soit pour moi. Alors je me suis inscrite pour le permis. J'allais conduire et diriger un moteur. Je crois que je m'en sentais incapable, mais je ne l'ai jamais dit. Ça m'intéressait pas tellement d'avoir ce pouvoir et je pensais que c'était très compliqué d'être statique au volant d'un truc qui fait des tonnes et qui roule. J'aime le mouvement ressenti. Les voitures, ça bouge, mais tu ressens rien à part si tu roules trop vite. Tu peux tuer des gens très facilement avec une voiture, les insulter, faire du mal. Alors bien sûr, il y a des milliers de kilomètres que tu vas enquiller pour traverser des mondes. Il y a les défis pour contrer les néfastes de merde. Et la possibilité de nettoyer des cages d'escalier aux quatre coins d'Aix qui brillaient dans le pare-brise de l'AX. Donc j'ai pas dit mes peurs et j'ai passé le code, j'ai réussi. C'était encourageant parce que les questions sont formulées de telle sorte que t'as à chaque fois une chance de te planter parce que tu ne comprends pas ce qu'on te demande. Après, j'ai commencé les leçons de conduite. On te dit de t'asseoir au volant d'une voiture et d'appuyer comme ça sur les pédales et tirer et pousser le levier de vitesse et les mains sur le volant à 10h10 et regarder devant mais aussi sur les côtés. Et tu le fais et tu cales. J'avais toujours peur de caler, je n'aimais pas le point de patinage, je détestais l'échec. Il y avait tant de moments plus gênants les uns que les autres où t'es dans le trafic à Aix sur la rocade et tu roules comme une patate. C'est nul d'apprendre à conduire adulte, je trouve. Ma mère avait raison. À 13 ans, c'est bien. Elle piquait la bagnole de ses parents quand ils sortaient. Elle avait l'impression de vivre sa meilleure vie, alors que moi, j'avais honte d'apprendre à conduire. Mais je voulais être moteur de ma life et nettoyer des cages d'escalier en Provence. Fallait ce qu'il fallait. Le moniteur d'auto-école ressemblait à Socrate. Il était vieux, chauve, pas beau. Le regard globuleux. Il portait des vêtements usés sans forme. Bah, croyez-le ou non, j'ai tout de suite senti de la tension sexuelle avec lui. Pas qu'il me branchait, non. Il y avait un truc dans l'air entre lui et moi qui me donnait envie d'aller aux leçons de conduite. J'avais honte de pas savoir conduire la voiture, mais pas honte de désirer le Socrate de l'auto-école. Moi qui avais peu exploré de ce que le désir peut prendre comme forme, j'étais OK pour assumer l'effet que le moniteur provoquait. j'ai passé la conduite 4 fois. Je ne sais pas si j'étais nulle. Probablement. Je crois que Socrate était un bon moniteur, mais par contre, je suis sûre que tout ça, c'était aussi la faute à la corruption. T'as une jeune femme qui veut absolument son permis et qui paye des leçons et qui paye l'examen et qui échoue et qui repaye des leçons et qui repaye l'examen et qui échoue et qui repaye des leçons et qui repaye l'examen et qui échoue et qui repaye des leçons et qui repaye l'examen. À chaque fois, je disais, faut pas m'inscrire si je suis pas prête. Mais en vrai, ça permettait de gagner des sous aux personnes qui avaient choisi cette carrière. J'en ai un peu voulu à Socrate et du coup, je lui ai pas donné mon corps. J'ai quitté sa compagnie de mecs qui appuient sur les pédales quand tu freines pas et poussent le volant quand tu braques pas, sans t'empêcher de le faire. Je me souviens plus très bien de comment tout s'est enchaîné entre le permis, le boulot, les études, l'emprise et la certitude que bientôt, je serai mon propre moteur. Seul. Ça a pris quelque temps et c'est là que je voulais en venir. Quand il y a quelqu'un qui veut te diriger et qui n'hésite pas à t'intimider, à te faire du mal, à t'utiliser, à te diminuer même à tes propres yeux, pour être sûr que tu t'écrases, bah c'est pas simple de dire « Ah ouais, je suis moteur, j'ai moteur, je m'en fous de vivre dans un monde où je dois payer 4 fois mon permis et nettoyer des cages d'escalier aux 4 vents pour avoir l'impression de pas me faire embarquer trop loin dans la merditude. » C'est pas simple d'être son propre moteur, les quenouilles. Et nous autres, qui le sommes sans doute, nous autres qui avons la possibilité de rouler vers des ailleurs où les Socrates nous font de l'œil globuleux sous les carrosseries, et c'est ok, soyons attentifs à celles qui se cognent à force de faire du surplace. On n'est pas défini par celui qui a le permis, et le silence, c'est pas lui le moteur non plus.
C'était Tropique de la grande Muriel Dac. Et avant ça, on a entendu Quenouille Aliette qui nous racontait l'aventure de son permis de conduire. Et alors justement, je voudrais bien, avant la fin de cette émission, dédicacer cette émission et la technique qu'on est là en train d'essayer de mener comme il se doit. Je voudrais la dédicacer à ma sœur qui vient de passer ses 40 ans et qui s'est dit que c'était le moment de passer son permis de conduire. Et c'est quelque chose de très important pour elle parce que elle a essayé plusieurs fois, ne serait-ce que de s'inscrire, et que ça n'a pas donné lieu. Et que là, elle s'est dit, j'ai 40 ans, je le fais. Et qu'entre autres, elle ne le faisait pas parce qu'il y avait beaucoup de pression familiale sur le permis de conduire. Et que maintenant, on lui souhaite d'être son propre moteur, comme elle l'est aussi pour moi. Et en dédicace, et aussi sur les mots et les recommandations de Quenouille Margot, on vous propose ça.
Quand j'ai eu mon permis tout neuf, du premier coup, c'est pas du bluff, je compris que j'avais intérêt à rester aux aguets. Que simplement on m'imagine dans ma deux chevaux d'origine, affrontant mon premier trottoir, le cœur rempli d'espoir. Je voulais que ma manœuvre fût un vrai petit chef-d'œuvre, mais je n'entendais que trop tous les clients d'un bistrot me beugler leurs commentaires. Mais passe là ta marche arrière, ah je vous jure, allez nana, heureusement qu'on est là. Ces abrutis pleins de pernos, ils m'ont fait rater mon créneau. Toutes les automobilistes pourraient faire avec moi la liste des âneries que l'on entend quand on est au volant. J'ai donc appris à leur répondre et de manière à les confondre. Oui, ça consomme, mais moins qu'un mari, et c'est bien plus gentil. La conduite, je l'ai apprise, pas dans une pochette surprise. La voiture, elle est à moi, ni à Jules, ni à papa. Et quand le long d'un trottoir, je les voyais goguenards, je demandais sans un frisson, vous voulez une leçon? Pour conjurer la parano, je suis devenue la reine du créneau. On s'habitue, on en rigole, puis on a une grosse bagnole. Alors on se fait insulter, elle t'a pas trop coûté, hein. Ils sont là qui vous collent aux fesses, parce que c'est pas une gonzesse qui va leur barrer le chemin. La veille, c'est pas demain. Mais tous ces doubleurs à droite, c'est pousse-toi de là que je déboîte. Maniaque de l'appel de phare, abuseur d'anti-brouillard, ce chic qui rien ne distingue, le volant avec un flingue, avant que de les laisser nous jeter dans le fossé. Résistons à ces tyrannos, nous sommes les reines du créneau. S'ils nous renvoient à nos fourneaux, ne lâchons pas notre créneau.
C'était Anne Sylvestre, la reine du créneau. Et avant ça, l'heure précédente, c'était les Quenouilles sur Radio Panique 105.4 et radiopanique.org. Les Quenouilles, vous pouvez nous réécouter en podcast tout le temps sur le site internet. On sera rediffusé le prochain samedi, non, le troisième samedi du mois, je ne sais pas ce que sera comme date. Et surtout, prochaine émission, le premier samedi de 2000, lundi, oh là là, ça va plus, mercredi même, premier mercredi de 2022 en janvier. Et le mot, ça sera un mot très très bizarre, mais le dictionnaire recèle de choses très très bizarres, prégazon. Voilà, je vous laisse à votre imagination. Et vous souhaite à tous, auditeurices